回下回下回。No hay vida más arrastrada que la del pobre correro, con la picana en la mano, picando al buey delantero.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bienvenue, mesdames, messieurs, sur Aligre FM et la deuxième émission de Au cœur du tango. Bonjour Sylvain Berthaud, qui est avec moi aujourd'hui.
Bonjour Nathalie Perrin.
Voilà, c'est une deuxième émission. Nous sommes ravis. Vous vous rappelez, chères auditrices, chers auditeurs, qu'Aligre FM est la première radio en France à proposer une émission dédiée au tango. Nous en sommes ravis. Nous avons aujourd'hui, parce que je ne veux pas les oublier, derrière notre vitre en verre du studio, René Clancy. Merci. Et René et Clancy. Et Armand Gury qui nous aide à la technique. Merci d'être là. J'invite tout de suite les auditeurs. Alors, cette semaine, il se passe quelque chose d'intéressant sur Aligre FM. C'est une semaine thématique sur avoir 20 ans aujourd'hui. Beaucoup de nos camarades d'Aligre FM font des émissions que vous pouvez réécouter en podcast, qui sont aussi en direct. Voilà, nous, on est tout jeunes arrivés. Et on espère bien la prochaine fois se joindre à nos camarades pour les semaines thématiques. Voilà. Aujourd'hui, c'est une très belle émission, Sylvain, que nous avons alors,
magnifique composée. Occasion, effectivement, on en est ravis, puisque nous accueillons autour de la table du studio d'Aligre FM trois invités, les trois co-auteurs du dictionnaire passionné du tango. Alors, on en a beaucoup parlé, c'est notre ouvrage de référence, c'est l'ouvrage qui est sur notre table de nuit, qu'on ouvre régulièrement avec bonheur. Donc, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Gwenaëlle Denigo.
Bonjour.
Emmanuel Honorin.
Bonjour.
Et Jean-Louis Mingallon.
Bonjour.
Je vais vous proposer tout de suite une succincte présentation de chacun de vous. Vous êtes tous trois journalistes, tous trois écrivains, passionnés de tango. Gwenaëlle, peut-être quelques mots d'abord.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Gwenaëlle Denigo, j'ai été journaliste. Je l'étais encore à l'époque du dictionnaire. Rappelons que le dictionnaire est paru en novembre 2015. Donc, nous fêtons cette année les 10 ans.
Oui.
Et il reste toujours le livre de référence en langue française, tout du moins.
Tout à fait, on le confirme.
Non, pour l'histoire du tango, aussi bien musique, poésie et danse, et j'allais dire existence.
Voilà, mais on passe à Emmanuel.
Oui, Emmanuel.
Emmanuel Honorin.
Oui, bonjour. On est content d'être là, en tout cas, c'est vraiment chouette. Oui, on est en effet dans la dynamique des 10 ans du dictionnaire. Quoi dire ? Donc moi, j'ai une formation d'anthropologie, ethnologue, donc, et je travaille depuis de nombreuses années sur les musiques du monde de manière beaucoup plus large. En dehors du tango, je fais de la production de musique de terrain, on dit. J'ai beaucoup travaillé à Cuba, en Haïti et dans pas mal de coins du monde. En dehors de l'Argentine dans un premier temps. Et voilà, et en effet, j'étais journaliste pendant très longtemps au magazine Géo. Voilà, pour
super.
Le dire comme ça.
Et on revient après sur la jeunesse du tango, la jeunesse du dictionnaire passionné du tango, on vous repassera
voilà,
la
non,
parole.
Moi juste en deux mots, oui. Moi je suis tombée dans la soupe du tango quand j'avais à peine 20 ans.
Ah oui.
87, 88, voilà, à un moment où c'était juste du plaisir pour moi. Je ne travaillais pas dans le tango, c'était une sorte de refuge psychologique et physique que j'aimais, comme on va, je sais pas moi, prendre des cours de yoga aujourd'hui. À côté de chez soi, enfin à l'époque c'était ça, et c'est quelques décennies après que c'est devenu une sorte de passion et aussi quelque chose d'un peu plus professionnelle, entre guillemets, même si je réfute ce mot.
Donc. D'accord, merci. Merci beaucoup, Emmanuel Honorin. Jean-Louis Mingallon, voilà, passage de micro délicat, mais on y est arrivé. Jean-Louis Mingallon.
Bon, bonjour à tous, à toutes. Moi, je suis journaliste, c'est mon premier métier, si je puis dire. Ensuite, c'est adjoint à la presse écrite, c'est adjoint à la télévision. Et puis un jour, j'ai aussi fait de la radio. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Et c'est vrai que j'ai commencé par m'occuper de théâtre puis de cinéma. Et c'est vrai que ma passion des musiques du monde était très, très ancienne. Et que, d'une certaine manière, j'écoutais du tango comme j'écoutais de la musique arabe ou indienne. Et puis, il y a eu les voyages. Et à force de voyager dans le monde, et bien, il s'est passé plein de choses. Et un des derniers voyages que j'ai fait, c'est 2001 à Buenos Aires. Et là, à Buenos Aires, je suis tombé dans la marmite. Voilà. À la fois la danse, la musique, tout ce que je découvrais. J'ai filmé comme un fou, j'ai écrit des papiers. Et petit à petit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à beaucoup lire, à beaucoup écouter. Et je me suis dit, mais à chaque fois que je cherche quelque chose, il faut que j'aille piquer comme ça, ici ou là, des éléments de détail. Pourquoi pas faire un grand livre dans lequel il y aurait tout de A à Z? D'où l'idée du dictionnaire.
Super, merci beaucoup. Alors, on dit à nos auditeurs, on va revenir sur cette genèse hein, et sur la manière dont est conçu cet ouvrage, le dictionnaire passionné du tango, qui est notre Bible. Hein. On a oublié de le redire, on l'avait déjà dit dans notre première émission. Nous, c'est une Bible, moi, qui m'a fait entrer dans le tango. On va écouter, on dit à nos auditeurs, je disais à l'instant, qu'on a demandé à nos invités de faire des choix musicaux et on les a classés dans l'ordre chronologique pour, voilà, on est aussi dans une pédagogie de la musique du tango et on va peut-être déjà écouter le premier morceau que Jean-Louis Mingallon nous a gentiment proposé à l'écoute, n'est-ce pas Sylvain?
Tout à fait, alors c'est Dice de mi, magnifique version de Tita Merello, tous les tangueros et tangueras connaissent parce que encore très fréquemment passé dans les balles, une composition de Francisco Canaro.
Et on en reparle tout de suite après avec Jean-Louis Mingallon, merci.
Dice que soy fiera, que camino a lo más lejos, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, dos hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un gorro.
Voilà, nos auditrices et nos auditeurs nous écriront et se plaindront d'avoir coupé ce morceau, c'est Dice de mi, un premier morceau qui a été choisi par l'un de nos trois invités. Nous avons le plaisir d'accueillir en effet les autrices et les auteurs du dictionnaire passionné du tango, Gwenaëlle Denigo, Jean-Louis Mingallon, Emmanuel Honorin. Jean-Louis Mingallon, ce choix de Tita Merello. Bon, on fera un jour une émission sur les femmes dans le tango, mais alors pourquoi ce choix? Et j'ai envie de lire quelque chose sur le dictionnaire, mais je vais m'arrêter.
Non, mais c'est, comment dire, le choix que j'ai fait des deux morceaux, le prochain, ça sera Cogenech, et là, c'est Tita Merello, c'est vraiment des chanteurs qui ont une place à part dans le tango, je trouve. On a quand même appelé Tita Merello la vedette canaille. Mm. Et quand on l'entend chanter, on se dit effectivement, c'est pas rien. Et alors, c'est un tango qui a été composé par Canaro, qui n'est pas le premier venu. C'est quelqu'un qui a fait des centaines et des centaines de titres, de compositions et tout ça. Donc, il compose la musique et les paroles sont d'Ivo Pelay, qui est un auteur de théâtre qui a commencé à travailler d'ailleurs très très souvent avec Canaro. Canaro est uruguayen et Pelay est argentin. Donc, c'est 43 et assez rapidement, il y a un premier enregistrement qui est fait par Canaro, mais non pas avec Tita Merello, mais avec Carlos Goldán. Roldán, donc, Roldán et l'enregistrement avec Tita Merello n'arrive qu'en 54. Et là, c'est la rencontre, il y en a eu d'autres d'ailleurs. C'est d'une certaine manière, Canaro adore travailler avec certaines chanteuses. Il a adoré travailler avec Ada Falcón. Et ensuite, il a travaillé avec Tita Merello. Donc, ça donne ce qu'on vient d'entendre. Et c'est. C'était assez formidable. Là, c'est une milonga, bien entendu. On l'a pas précisé.
Oui, oui.
Ça n'est pas un tango, c'est une milonga. On sent bien le rythme, là, qu'on a envie de danser. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ça, parce que c'est vraiment un peu à part et j'adore cette voix comme ça, un peu canaille.
Oui. Alors je vais pas lire l'article que vous avez écrit sur Cédis et Demi, mais simplement le début de l'article de Tita Merello, parce que il faut donner à écouter à nos auditeurs et nos auditrices la manière dont vous écrivez dans ce dictionnaire, qui est clair, simple, qui va droit au but. Alors, Tita Merello, la morocha argentina, la negra, Tita de Buenos Aires, hein, donc tous ces petits surnoms. Chanteuse et actrice, 1904-2002, elle a traversé le siècle et occupé la scène artistique pendant plus de 70 ans. Longévité impressionnante, mais chez elle, tout est hors norme. Née dans la misère extrême, analphabète jusqu'à l'âge de 20 ans, elle se fait connaître sur les ondes dès 1925, devient star des planches et des écrans à partir des années 30, sans jamais oublier d'où elle vient. On a toujours voulu la comparer ici à Edith Piaf, là à une Anna Magnani des Pampas, là encore à une Marlène Dietrich créole, Dixit Carlos Gardel, mais elle ne ressemble qu'à elle-même, incomparable, inimitable, reconnaissable entre toutes, avec son style espiègle, sa prononciation faubourienne, teintée le plus souvent d'ironie et parfois de nostalgie. C'est R qu'elle roule avec une infinie délectation, sa voix qui parle, joue, autant qu'elle chante et prononce comme par défi des mots de l'un fardo, jeté à la face du monde et des gens bien élevés. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez un petit peu à l'oreille ce dictionnaire passionné du tango, son écriture incisive, précise, hein, dynamique, Sylvain.
Oui, et aussi avec tellement d'humour,
oui.
D'énergie, une vision aussi souvent des lieux, des découvertes du vocabulaire du bal. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement vivant toujours dans l'écriture du dictionnaire et on aime beaucoup vous lire.
Voilà, oui. Bon, oui, Emmanuel Honorin.
Petite... Je vais faire une petite, donner une petite information sur le plaisir qu'on a eu à écrire ce
oui.
livre, puisque vous avez du plaisir à lire.
Et tout à fait.
Moi, ça me renvoie à cet état dans lequel on était quand on travaillait ce dictionnaire. C'est qu'on est certes donc trois à l'avoir écrit, à l'avoir préparé, à avoir fait ce choix des entrées. Ça a été beaucoup de temps. Hein. C'est un travail de fond qui n'était pas évident et qui était intéressant. C'est une espèce de mélange entre les entrées biographiques, les noms, les concepts, l'histoire, les dates, etc. etc. Et puis, à l'extérieur de notre petit cercle, on a eu combien, une quinzaine peut-être d'interlocuteurs extérieurs qui nous ont envoyé aussi leur vision, leur texte. Et donc c'est un mélange, ce dictionnaire, entre notre écriture, entre guillemets, et aussi une sorte d'échange avec des passionnés du tango d'ailleurs dans le monde. Et ça, je pense qu'il y a ce plaisir-là aussi.
Oui,
qui a aussi enrichi.
C'est-à-dire
que
c'est une tradition écrite, mais aussi orale dans ce sens-là. C'est pour ça que j'aime bien la manière dont vous l'avez lu, parce que c'est ça, en fait.
Mais j'en profite aussi pour dire que votre dictionnaire est paru au Seuil, hein, en 2015, on le rappelle. Donc, il a un tout petit peu plus de 10 ans et qu'il a 700 pages. Enfin, je veux dire, quand on disait tout à l'heure que c'était la Bible et la référence, hein, pour les danseurs et les danseuses, c'est pas rien. C'est-à-dire, quand on commence le tango, c'est un ouvrage qu'il faut avoir. au sens où même on y apprend les codes. Hein, on ne désespère pas de faire une émission spéciale sur la danse et les codes du tango. Et c'est grâce à vous, par exemple, que moi, qui n'ai que 3 ans de tango, j'ai connu les codes. Et qu'en milonga, hein, qu'on rappelle, ce sont les balles de tango, je peux circuler grâce au dictionnaire passionné du tango. Hein, donc c'est aussi bien de la théorie que de la pratique.
Donc là, vous parlez des codes du bal, donc des codes de la danse tango.
Oui, et puis parce on pense à tous vos articles, Cabeceo, La Mirada, que vous expliquez comme ça de manière extraordinaire. Gwenaëlle,
oui, même
si,
la danse est présente évidemment dans le dictionnaire, mais oui. En fait c'est loin d'être la majorité des entrées.
Tout à fait, c'est une histoire aussi.
Il y a à peu près 500 entrées, dont 300 biographies qui sont particulièrement des musiciens, des poètes, des collectionneurs et également des danseurs. Mais non, juste pour préciser pour les auditeurs, ce n'est pas un livre sur la danse tango.
Non, bien sûr,
C'est plus large que ça,
oui,
en effet.
Oui, tout à fait. Alors, on est bientôt proche de passer le second extrait.
Tout à fait, qui est le choix donc, de Gwenaëlle de Nigo. Et merci de ce choix magnifique, Troilo, Hannibal Troilo, Roberto Grella.
Voilà. Pourquoi ce choix, Gwenaëlle?
Alors, le choix, ce n'est pas le choix spécifique du thème qui était Nunca tu venoio. Donc, c'est un morceau d'Agustín Bardi qui était un violoniste et pianiste, mais très peu interprète. En fait, dès 1921, il se consacre entièrement à la composition. Les danseurs, pour le coup, se rappelleront sans doute de Gallo Ciego, sur lequel il danse dans toutes les milongas. Avec des paroles qu'on ne va pas entendre là, puisque c'est un morceau instrumental, de Cadícamo, qui est un des plus grands poètes du tango. J'ai choisi ce morceau parce que pour moi, c'est un des meilleurs disques de tango au monde, avec les deux instruments spécifiques du tango, le bandoneon et la guitare. Et j'insiste beaucoup sur la guitare, qui est le premier instrument du tango. Et qui là donne toute sa mesure. Roberto Grella, c'est le guitariste auquel se réfèrent encore tous les guitaristes de tango aujourd'hui. Et Troilo, également appelé Pichuco, d'où son quinteto Pichuco, c'est le bandoneoniste. Et c'est également un grand personnage de tango, un grand nocero, quelqu'un qui vivait complètement la nuit, complètement dépassé. Il en est mort de fait. Parce que comme on sait, la nuit, on boit, on fume, on se drogue.
Oui, oui.
Et Troilo, il est tellement le bandoneoniste du tango qu'en fait, sa date de naissance, le 11 juillet, est devenue le jour national du bandoneon.
Oui, on a eu l'occasion d'en parler dans la première émission, tout à fait.
Très bien. Et que dire de ce morceau? En fait, ce morceau donne toute la... tout ce disque donne toute la puissance du jeu de Troilo qui... a transformé son instrument en une voix. C'est-à-dire qu'en fait, il chante la mélodie avec le bandoneon. Et c'est la guitare qui accompagne. Et ce n'est pas l'inverse. Donc les gens qui connaissent les paroles, en fait, entendent dans chaque note les paroles. Et on a l'impression d'entendre une voix. Et c'est la voix du bandoneon qui n'est pas là juste pour faire le rythme.
Tout à fait. On le découvre et on en reparle juste après.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Thank you.
Voilà, vous êtes de retour sur Aligre FM et dans l'émission Au cœur du tango. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir les deux autrices et l'auteur du dictionnaire passionné du tango, la Bible, probablement en France, du tango, sous toutes ses formes, son histoire, sa musique, ses compositeurs, voilà, tous les artistes,
sa poésie,
etc., etc. Nous avons donc autour du micro Gwenaëlle Dénigo, Jean-Louis Mingallon et Emmanuel Honorin. C'est Gwenaëlle Dénigo qui a choisi cet extrait. Gwenaëlle, vous vouliez nous lire un passage de votre dictionnaire?
Non, je vais juste citer une phrase qui est comme une sorte d'anecdote, pour préciser aussi que c'est typiquement ce genre d'anecdote qu'on découvre dans les notices du dictionnaire. Donc dans la notice Hannibal Troilo, au-delà de la pure notice biographique, d'où il vient, ce qu'il a fait, il y a des petites histoires. Les petites histoires qui font la grande. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur le bandoneon comme une voix, je peux juste vous lire trois lignes. C'est le bandoneoniste Julio Pané. Julio Pané, c'est un des grands bandoneonistes actuels. À Julio Pané, on trouve une petite étoile dans ce que je suis en train de lire sous vos yeux. Et l'étoile veut dire que Julio Pané a sa propre entrée dans le dictionnaire.
Oui.
Donc, en fait, on peut circuler.
Tout à fait.
Évidemment, ce n'est pas un livre à lire de A à Z.
Non, du tout.
On circule par ses propres choix et ses propres intérêts. C'est le bandoneoniste Julio Pané qui a le mieux résumé la situation. Tout le monde cherchait le prochain Gardel chez les chanteurs et ce fut Hannibal Troilo.
Très belle phrase. Oui, vous parliez juste avant, Gwenaëlle Dénigo, de cette place de la guitare par rapport aux bandoneons et que finalement, comme si la guitare venait remplacer la voix.
C'est non, ça, le bandoneon.
Le bandoneon remplaçait la voix, voilà, c'est ça.
Voilà.
La guitare,
donc voilà,
c'est
la nouvelle
vraiment
voix.
Le retour à l'origine, c'est l'instrument du début et le bandoneon de Troilo est extraordinaire parce qu'effectivement, on entend presque les paroles
exactement.
De la chanson pour les danseurs, hein, pour aller renvoyer à la version de Lorenz,
exactement.
Avec Alberto Podesta aussi, qui lui donne sa voix justement aux paroles de Cadicamo. Ici, c'est vraiment Troilo qui prend la place du chant et
exact.
De tout le chant, c'est magnifique.
Oui, voilà, c'était bien de repréciser aussi que dans ce dictionnaire passionné du tango, il y a effectivement une manière de circuler dans le dictionnaire comme bon nous semble, en fait, hein, selon nos propres intérêts. Est-ce qu'on va regarder la petite astérix qui renvoie à, ou au contraire, est-ce qu'on feuillette l'ouvrage? Comment vous avez pensé cela? J'imagine en termes de travail, ça n'a pas dû être évident. Comment ça s'est fait? Est-ce qu'il y avait déjà un plan de travail au départ avec les éditions du Seuil, ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure, cette manière de circulation?
Vas-y, j'ai une question.
Je vais prendre la parole, parce que c'était mon projet que j'ai... Ça s'est passé très simplement. J'ai cherché un peu dans les amis que j'avais dans les musiques du monde. Je connaissais donc Emmanuel. On se voyait souvent dans les concerts. Elle écrivait, je lisais ce qu'elle écrivait dans ses revues. Peut-être qu'elle me lisait aussi. En tout cas, j'ai eu des téléphones. Elle me dit, ah oui, c'est une bonne idée, mais ça représente un gros travail. Je dis, oui, c'est un énorme boulot. Ouais. Elle me dit, je ne sais pas si je vais pouvoir faire... toi, tu feras la moitié, je ferai la moitié, c'est peut-être beaucoup. Donc, je te propose de faire une moitié de la moitié avec quelqu'un d'autre que je vais te proposer, que je vais te faire rencontrer, qui est donc Gwenaëlle. Donc, j'ai ensuite rencontré Gwenaëlle. Et après, comment on s'est partagé, c'était un peu à la passion de chacun. Gwenaëlle avait son secteur, elle le dira après lequel. Emmanuel avait le sien. Moi, j'avais plutôt tendance à faire les chanteuses,
oui.
Pour commencer. Bon, et puis après, ben, j'ai
pas... Aussi, toi. C'était l'archiviste.
Super archiviste. Les biographies.
Les biographies,
voilà. Donc, j'ai fait plutôt beaucoup de biographies, voilà. Et puis, la danse, c'est plutôt Gwenaëlle. Enfin, chacun va dire un peu ce qu'elle...
Emmanuel, alors, prenez le micro. Quelle était, vous, votre spécialité dans ce dictionnaire?
Alors, spécialité, je sais pas. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas trop sérieux, même si le résultat, il y a quand même évidemment des outils et c'est intéressant. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le côté ludique.
Oui.
C'est-à-dire que l'idée, c'est que chacun puisse recréer son histoire du tango ou son rapport au tango. En fait, il y aurait presque, comme je dis toujours, il y a autant de tango que de personnes,
oui,
et que de manière de le vivre, c'est quelque chose de très
tout
libre. Ce bouquin, il ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on le lit en effet dans le sens qu'on veut. Et le jeu des étoiles et des astérix et des renvois, ça crée une circulation totalement libre.
Oui.
Et pour nous aussi d'ailleurs, dans la manière de le faire. Moi, donc Gwen était plus du côté de la danse, elle en parlera tout à l'heure. Moi, je viens, je rentre dans le tango de manière très, très spécifique, hein, qui est la musique, musique du monde. Comme disait Jean-Louis d'ailleurs, ça, on a ça en commun. Moi, j'écoutais à l'époque, dans les années 90, Nusrat Fateh Ali Khan, Cesaria Evora, je sais pas moi, non mais en live, je parle vraiment de live parce que justement, je trouve que c'est ça en fait, c'est de la musique vivante. Et pour moi, le tango entrait dans ce concert-là, dans quelque chose de ces musiques syncrétiques. Pour moi, c'est une musique du monde,
oui.
Des mondes au sens pluriel, musique des ports, c'est un blues en fait,
oui, oui, oui.
Et je l'ai toujours vécu comme ça et je le vis toujours comme ça aujourd'hui à travers la musique live, in vivo comme on dit. Et en effet, quand Jean-Louis m'a proposé ce projet, il s'avère que nous travaillions ensemble avec Gwen sur, à l'époque on avait la Contradanza déjà à la Bellevilloise, qui était un lieu où une fois par mois on réunissait, c'était le plus important de Paris pour le coup à ce moment-là, où on réunissait une fois par mois les milongueros, comme on dit, les passionnés du tango, danser, mais pas que, parce que c'était une culture beaucoup plus globale, où on présentait des livres, où il y avait des films qui passaient, et il y avait toujours un orchestre, petit ou gros, selon les possibilités. Et on travaillait ensemble, c'était vraiment chouette, quoi. Donc à ce moment-là, tout le lien, il s'est fait comme ça. Et moi, mon truc, c'est plutôt les origines. Je travaillais à l'époque avec Juan Carlos Cáceres, qui travaillait sur tout ce qui était réflexion autour de l'africanité dans le tango, donc c'est quelque chose assez particulier. Et puis Piazzolla, puisque je venais d'écrire, je venais de sortir, enfin quand même quelques années avant, hein, c'était 4-5 ans avant, ce bouquin qui s'appelle Le tango de la démesure.
Alors vous faites une excellente transition et on reviendra avec vous sur Piazzolla et on redonnera la parole à Gwenaëlle Denigo aussi pour parler de ces champs de recherche, de ces champs de passion autour du tango. On va écouter un troisième extrait précisément que vous avez choisi, Emmanuel Honorin, Astor Piazzolla, Liber Tango.
Milan 1984, effectivement. Toujours important quand on parle de Piazzolla. Piazzolla, on n'a pas un enregistrement identique, on n'a pas une version de référence. Il le disait lui-même, il était important pour lui d'être toujours dans la tradition de la musique live. Comme les plus grands jazzmen, il aimait que chaque performance soit unique. Donc on se réfère à chaque fois à des enregistrements et pas seulement à des thèmes.
Et c'est bien
Milan 1984 qu'on va écouter maintenant.
Merci à Emmanuel Honorin et on vous redonne la parole. Oui, on écoute immédiatement Liber Tango version Milan 84.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Merci beaucoup. Un court extrait de Liber Tango, créé en 1973. Nous écoutions ici la version de Milan, 1984. C'est le choix d'une de nos invitées, Emmanuelle Honorin. Nous rappelons que nous sommes avec Jean-Louis Mingallon, Gonaël Dénigo pour le dictionnaire passionné du tango. Emmanuelle Honorin, ce choix de Libertango, il y a des choses à dire hein, dans le dictionnaire. Hein.
En fait, j'ai choisi Libertango, c'est un peu un pied de nez, parce que c'est loin d'être mon morceau préféré du tango, mais aussi parce que c'est un morceau à la fois de... C'est une faille dans l'histoire de Piazzolla, et en même temps, peut-être le morceau le plus connu au monde avec la Gumba Circita, on va dire ça comme ça, c'est vraiment le titre de l'internationalisation du tango. Et je trouve dans ce double mouvement, je le trouve intéressant. Libertango, donc 1973, Piazzolla est en Italie, il est dans un moment déprimé de sa vie, il a eu beaucoup de hauts et de bas, et c'est, on ne va pas parler de Piazzolla maintenant, parce que d'après ce que j'ai compris, il y aura une autre émission, mais on est sur ce qu'on appelle le Picasso du tango, c'est-à-dire quelqu'un qui a à la fois révolutionné le genre, c'est une construction totale et qui l'a quelque part et pour beaucoup détruit, c'est-à-dire détruit et reconstruit. Donc on est c'est énorme l'histoire de Piazzolla. Et Libertango est arrivé dans l'histoire de Piazzolla comme une faille. Lui, il dit que c'est son pire enregistrement. Oui. Alors j'aime bien le citer parce que moi-même, j'oserais même pas dire un truc pareil. Selon ses dires, Libertango est le pire disque qu'il ait jamais enregistré. C'est une connerie. Ça, c'est ce qu'il raconte à Gorine, son biographe officiel, avec une influence Quincy Jones et la tentation de faire un tango plus international, mais une musique aussi nulle, on peut pas faire. Voilà, mais c'est intéressant parce que Quincy Jones, c'est quoi? C'est tout son rapport à Paris, Nadia Boulanger, ces outils qui ont fait ce génial compositeur et bandoneoniste. Et puis c'est en effet cette ouverture, et c'est aussi nous, et pour le coup le grand public de ce qu'on connaît du tango, c'est-à-dire la reprise de Grace Jones, Nine Clubbing, c'est du disco, c'est Milva. Sa copine Milva, je crois, c'est ça.
Oui.
C'est Ute Lumper, c'est Guy Marchand qui nous a quitté il y a pas très longtemps, c'est Gotan Project, c'est il y a eu des dizaines et des dizaines de versions de Libertango. Rien que pour ça, je trouve ça il fallait le dire, voilà, en gros. Après, c'est aussi un hommage à son fils qui vient de nous quitter, Daniel Piazzolla. Et c'est intéressant parce que à part que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé et qui a enfin je l'ai aimé parce qu'il a il m'a donné beaucoup pour mon premier bouquin sur Piazzolla et il m'a vraiment parlé de son père de manière très honnête et très directe. Et voilà, il vient juste de nous quitter, ça fait vraiment un mois, donc c'est très récent. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Libertango, c'est aussi toute cette ambiguïté de Piazzolla qui ne voulait pas dire qu'il était un tanguero officiel. Il disait construit la musique de Buenos Aires. Pour moi, c'est la musique de Buenos Aires. Ça, c'est ce qu'il disait dans son pays, en Argentine. Mais dès qu'il était à l'extérieur, évidemment qu'il utilisait le tango comme une marque commerciale.
Donc c'est tout ce double-là
que je trouvais marrant.
Oui, on reviendra dans l'émission Au cœur du tango sur Piazzolla et j'espère que vous viendrez nous en reparler. Mais j'ai souvenir d'avoir vu une vidéo de lui sur YouTube, ça m'avait épaté où il disait « mais je veux absolument pas faire un tango pour les danseurs ». Le tango, c'est un art et je le conçois comme un art, c'est-à-dire comme une grande musique. Hein. Bon, on connaît ses influences classiques et son parcours classique.
Ça n'a pas empêché que Libertango, c'est quand même un des morceaux qui lui a rapporté le plus de droits d'auteur. et voilà, c'est la fin de
la leçon
de tango. Et c'est
aussi le morceau qui est le plus dansé par les danseurs de scène, mais il y a des scènes d'anthologie sur Libertango.
De Sally Potter, de la leçon
de tango. La dernière scène de la leçon de tango, Pablo Vérone, Géraldine Rolas.
Tout à fait, absolument.
Oui, parce qu'en Milonga, il y a beaucoup de gens qui ont commencé le tango à cause de cette scène-là.
Oui, en Milonga, par contre, non, on n'entend jamais Libertango. C'est désormais, plus on danse guerre. Plus dessus. Non, c'est vraiment pour le tango de scène, malheureusement. Oui.
Alors, on va entendre un autre tango absolument magnifique d'Astor Piazzolla. C'est le choix de Jean-Louis Mingallon. Merci Jean-Louis pour ce choix qui nous fait toujours frissonner à l'écoute. Je propose qu'on l'écoute tout de suite et que vous nous en parliez.
Donc Astor Piazzolla con Roberto Goyeneche, Vuelvo al Sur, 1989 pour la version. Voilà.
Vuelve siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur. Sur, te quiero. Vuelve siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llevo el sur, te quiero, sur, te quiero, sur.
Alors, Sylvain, un très 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 beau morceau choisi par Jean-Louis Mingallon, un de nos invités auteurs, avec Gwenaël Dénigo et Emmanuel Honorin autour de la table ici pour ce magnifique dictionnaire passionné du tango. Très beau morceau, Sylvain, je disais à l'instant.
Merci Jean-Louis Mingallon pour toute l'émotion qu'on a ressentie dans le studio encore. Bon, c'est absolument bouleversant.
Je suis bien d'accord. Oui. Ben, je crois qu'il y a deux morceaux, il y a deux titres qui m'ont mis par terre, les larmes aux yeux. C'est d'ailleurs drôle parce que c'est deux titres qui sont liés au cinéma, je t'expliquerai après pourquoi. C'est Oblivion, et Volvo le sourd. Alors, petite précision, la version que j'ai choisie, ce n'est pas celle de 89, c'est celle de 88.
D'accord.
Parce qu'il y en a deux avec Goyeneche. La première est avec Astor et la seconde est avec Nestor Malconi. Et donc, la première version de 88, c'est au moment où Solanas est en train de travailler sur son film Sourd, Il propose à Piazzolla de... Je ne sais jamais si on dit Piazzolla ou Piazzolla. Ça, c'est un vrai problème. Bon. Mais j'ai tendance à faire Piazzolla et t'entends Piazzolla. Bon, bref, ça dépend. Donc, il est en train de travailler et il propose à Astor, on va dire comme ça, c'est plus simple, Astor, d'écrire la musique et lui créera les paroles de ce thème qui s'appelle donc Vuelvo al Sur, et qui est dans le film d'ailleurs, et c'est dans le film, c'est Goyeneche qui le chante évidemment. Et alors évidemment, Vuelvo al Sur, c'est je reviens au sud. On aurait pu dire tout à l'heure, quand on a passé ses lycées d'Emmy, ça veut dire aussi on dit de moi.
On dit de moi.
C'est
oui.
tout un tas de
oui,
choses
oui.
qu'elle raconte sur la vision qu'ont les gens d'elle. Voilà, donc Vuelvo al Sur, c'est ça. Et ce qu'on peut dire, Goyeneche, pour moi, c'est c'est un peu comme Tita Merello, c'est-à-dire qu'il a la voix. Là, on est en 87, 88, 89 plutôt, et il a déjà passé un cap qui est celui de la gorge ensablée, hein, garganta con arena, c'est-à-dire la gorge
pleine de sable.
Et là, c'est extraordinaire, il roule les airs, il est dans le sable, et à chaque fois, moi, je frémis de bonheur à écouter cet homme. Et il va pas vivre encore très très longtemps, et Astor et Goyeneche vont mourir en 92 et 94, c'est-à-dire quelques années plus tard. Mais enfin, ils auront encore le temps de se parler et peut-être de faire les choses ensemble.
Un véritable chef-d'œuvre. Oui. On va avancer, on va passer au choix de Gwenaëlle Denigo. On change d'époque. On avance un petit peu avec Juan Cedrón. Le Quartetto Cedrón est un titre que je ne connaissais pas. Merci Gwenaëlle pour cette découverte. Peut-être en parler un petit peu à Lola Mora.
À Lola Mora qui est jouée ici au bandoneon par Strozio, qui est toujours ici à Paris. C'est une composition de Juan Cedrón en fait. Et c'est un morceau très important pour moi parce que c'est à cause de ce morceau que je suis tombée dans le tango.
Ah.
Donc c'était dans les années, j'étais enfant, j'étais adolescente on va dire, c'était dans les années 74-75, et comme Emmanuel, on est exactement de la même génération, on a exactement les mêmes références musicales de la part de nos parents en particulier, et les années 70, ces années que les jeunes gens n'ont pas connues et ne peuvent plus vraiment connaître vu les valeurs actuelles.
Oui, malheureusement.
Avec 50 guillemets autour.
Oui.
C'était des années de lutte politique très importante. La majorité des artistes argentins ont fui l'Argentine. Et Juan Cedrón est venu en 73. Il a rencontré Paco Ibáñez, avec lequel il a commencé à jouer, qui lui-même était fils de républicain espagnol exilé en France. Et donc, dès 1974, tous les Cedrón, puisqu'ils sont tous connus, peintres, architectes, etc., sont arrivés en France avec leur famille. Et ça a été la grande période du Quartetto Cedrón qui jouait du tango, qui a toujours été un pied dans le passé, un pied dans le présent, qui a toujours joué des tangos traditionnels et des compositions propres, avec un arrière-fond politique. C'est-à-dire, il y a un seul disque qui est Le Chant du Coq, avec réellement des paroles politiques. Tout le reste, c'est des mises en poème de Rafael Alberti à Neruda, en passant par González Tuñón, des poèmes qui n'ont pas un propre message politique. Mais le jeu du Quartetto Cedrón et sa position en France dans les années 70 était défense des exilés, défense des peuples opprimés, etc. À cette époque, mes parents faisaient de la politique et organisaient des concerts de soutien à différentes causes. Et donc, le Quartetto Cedrón venait très régulièrement chez moi, et donc caché dans l'escalier. Alors que j'avais école le lendemain, je les écoutais jouer jusqu'à 5 heures du mat dans le salon. Et ce morceau-là est devenu, ce morceau-là particulièrement, que Juan Cedrón a bien voulu me rejouer des années après, quand on a organisé le concert avec Emmanuel à la Bellevilloise il y a moins de 10 ans. Bon, voilà, moi, c'est Jean-Louis a pleuré tout à l'heure sur Vuelvo al Sur. Moi, je vais pleurer si on l'écoute là maintenant. Mais le Quartetto Cedrón, c'est très important, je pense pour nous tous d'ailleurs, ici autour de cette table. Parce que ce n'était pas du tango pour danser, ce n'était pas du tango pour écouter, c'était vraiment du tango comme la musique du monde et du tango politique.
Très bien. Je vous propose, Gwenaëlle Denigo, on écoute
oui.
et vous reprenez la parole après avec, avec grand plaisir. Quarteto Cedrón, Allo la Mora 2012.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Merci de retour sur Au cœur du tango, Allegre FM et les trois auteurs, Gwenaëlle Denigo, Jean-Louis Mingallon et Manuel Honorin, pour le dictionnaire passionné du tango. C'est un vrai plaisir de les recevoir. Grâce à Gwenaëlle Denigo, nous avons pu entendre un magnifique morceau de Quarteto Cedrón à Lola Mora. Un tout petit mot avant de passer la parole à Emmanuel Honorin.
Oui, non, donc je vais reprendre. Donc ça, c'était dans les années 70. Moi, après, là, j'ai vécu avec le tango comme une musique parmi d'autres de musique du monde, en effet. Mmh. Et ce n'est que bien plus tard, je ne sais pas, 25 ans plus tard, que je me suis mis à danser et à découvrir la musique qu'on dansait en bal, qui n'avait évidemment strictement rien à voir avec ce que pour moi, le tango jusque-là, c'est-à-dire les Cedrón, Piazzolla, Salgan, et tout d'un coup, j'ai découvert qu'il y avait un tango chanté, ancien, mais pas, avec parfois des paroles pas extrêmement intéressantes, mais bah, avec un rythme qui nous permettait de danser. Donc c'était très différent. Ce qui me permet de reprendre là où on s'était arrêté tout à l'heure sur ce que j'ai fait moi dans le dictionnaire.
Oui.
Donc en effet, je me suis occupée de tout ce qui était autour de la danse. Et puis, je vivais à l'époque à Buenos Aires, ou plus exactement, je suis allée à Buenos Aires pour travailler sur le dictionnaire. Moi, je viens de la recherche. Avant d'être journaliste, j'étais chercheur en sciences sociales, de philosophie, de l'histoire. Et donc, j'ai beaucoup travaillé dans toutes les archives de la nation, toutes les archives Argentine, à lire tous les journaux du début du siècle, à trouver, essayer de reconstituer la vraie histoire du tango, même si elle est toujours empreinte de mythologie, parce que les livres disponibles en espagnol, en fait, racontaient tous leur propre histoire du tango. Donc voilà, nous, on a raconté la nôtre. Et en étant à Buenos Aires, et bien évidemment, là, c'était la casquette journaliste d'interviewer les acteurs encore vivants, voire les jeunes acteurs, ce qui va nous permettre de faire une transition de l'époque, les chanteurs, les musiciens, etc. Et toujours tendance à dire que Jean-Louis s'occupait des musiciens morts et moi des musiciens vivants.
Bon, alors, c'est une excellente transition. Emmanuel Honorin, vous avez choisi...
Jean-Louis, là, il veut absolument intervenir, Jean-Louis.
Toute petite parenthèse par rapport à Cédron, c'est que dans mon souvenir, tout d'un coup, je me dis, mais en réalité, les premiers tangos que j'ai écoutés, c'est les tangos militants de Cédron.
Merci.
Les années 70. Bien sûr, c'est ça. J'ai complètement oublié cette histoire. Voilà. Comme j'étais très militant à l'époque, à toutes les manifs où on allait, les concerts et machin,
les fêtes de l'humanité. Enfin bon.
Et on parlera aussi de Cédron dans une prochaine émission, parce que moi, il me revient aussi que j'ai dansé sur la Tipica. Un orchestre créé par Juan Cédron et qui était un orchestre pour les danseurs. Donc on avait toutes les facettes du tango au travers de cet orchestre. On va être obligé de conclure et de laisser le dernier morceau d'Emmanuel Honorin, donc Tablao de Tango, une très belle découverte. Aussi, on est dans un tango vivant, actuel et en perpétuelle réinvention. Parce que ce qui est frappant quand on l'écoute, c'est que finalement, on se retrouve au tango des origines. Une formation musicale extrêmement restreinte, un jeu sur le grill, improvisé, sans partition. Aussi un rappel des payadores, des joutes de troubadours finalement, avec une voix un peu rurale. Donc voilà.
Emmanuel Honorin, ce choix magnifique, moi, pour moi c'est une découverte, hein. Je ne connaissais pas.
Merci parce que c'est, on vit, je dis on parce que Gwenaëlle aussi a été actrice de ce projet depuis 2022 maintenant. C'est un projet qui est né à la Philharmonie de Paris et c'est peut-être pas par hasard que ce projet soit né à Paris. Il revient maintenant en Argentine avec beaucoup de succès. Je reviens d'Argentine, hein. J'y étais, ça fait 3 semaines et on a donné les premières représentations du Tablao de Tango sur son sol, en Argentine, à Buenos Aires, Rosario, Mendoza et Córdoba. Et c'était incroyable. Mais c'est aussi incroyable, évidemment, que ce projet soit né à Paris, mais il y a tellement d'autres histoires du tango entre, on dit toujours, Buenos Aires et la femme, Paris et la maîtresse. Il y a quelque chose comme ça, avec ces allers-retours qui est assez logique. Tablao de Tango, c'est en effet à la fois un retour aux origines, à l'origine la plus simple, la colonne vertébrale, qui est la guitare. Et c'est pas par hasard qu'il est né en fait autour de la guitare de Rudy Flores, qui est ce guitariste donc de chamamé de cette région de Corrientes, cette région qui pousse vers le Paraguay, vers le Brésil, vers le nord-ouest de l'Argentine. Guitariste extraordinaire qui a vécu longtemps à Paris. J'y vais vite parce que c'est une grande histoire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a... soustrait, synthétisé une formule minimale, on va dire comme ça, autour d'un très grand chanteur de tango aujourd'hui, contemporain, moderne, presque un rock, une voix de tango dans un corps de rock, on va dire comme ça, parce que c'est aussi un chanteur de rock par ailleurs, Chino Laborde, Rudy Flores à la guitare et un harmoniciste qui est un ovni total, Franco Luciani, un harmonica. C'est cet instrument voyageur, il sort son instrument de sa poche, on n'y croit pas, c'est un petit truc comme ça, il est extraordinaire, il amène évidemment tout le côté rapport au jazz aussi, hein. C'est quelqu'un qui a été adoubé par Toots Thielemans, qui a beaucoup voyagé, qui tourne en ce moment avec Berto Gismonti, donc on est vraiment sur une histoire, mais c'est, ça aussi c'est le tango, cette connexion folklore, jazz.
Mais aussi
jazz.
Le folklore.
Folklore, très fort. On n'a pas donc parlé de Atahualpa Yupanqui tout à l'heure. Dans nos années où on était avec le tango, on écoutait aussi Atahualpa qui était là. On est sur quelque chose de très global que j'aime bien. Et donc, le Tablao de Tango, projet autour d'un seul thème qui s'appelle Alcool y Desamor.
Ah,
Alcool y Desamor, qui est quand même la synthétisation de tout ce qu'on peut dire autour du tango aujourd'hui.
Alors en tout cas,
voilà. J'en parle parce qu'ils sont en tournée régulièrement. Ils reviennent là en mars, avril. Voilà, ils tournent. C'est un projet qui tourne. C'est un disque qui vient de sortir et qui vient de ressortir parce que vu son succès, on vient de le ressortir. Et il y a un vinyle dans 3 mois qui ressort.
Et
Tablao de Tango.
On vous réinvitera. Alors on va clore l'émission sur ce morceau, Tablao de Tango, Nocturno de mi Barrio, 2002. Nous avons eu l'immense plaisir de recevoir Gwenaël Denigo. Merci Jean-Louis Mingallon, Emmanuel Honorin, merci d'être venu. On vous réinvitera, auditrices, auditeurs, n'ayez pas peur, ils, elles reviendront. Je remercie la technique, Armand Gury et René Clancy, René et qui nous passent cette magnifique musique pour terminer l'émission. À la semaine prochaine, messieurs, dames.
Mi barrio era así, 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 así. Es decir, qué sé yo si era así. Pero yo me lo acuerdo así, con Giacomino, el carbonero de la esquina que tenía las hornallas llenas de hollín y que jugó siempre de jazz izquierdo al lado mío, siempre, siempre, tal vez para estar más cerca de mi corazón. La copa del alcohol hasta el final, y en el final tu niebla, bodegón, monótono y fatal, me envuelve el guitarrón con un vapor de tango que hace mal. A ver, mujer, repite tu canción. Sí, con esa voz...
Vous écoutez Aligre FM 93.1.